fait pour nous et nous t'apportons cette parole qui est comme une manne pour aujourd'hui, pour nous tous. C'est ton serviteur qui l'apporte. Bénis Damien et inspire-le. Au nom de Jésus, amen. Voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas, Damien est l'époux de Thérèse.
Ce matin, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle et puis, en tant que médecin, faire une piqûre de rappel sur l'amour de Dieu pour nous. Et le mot est tellement galvaudé aujourd'hui et on a tellement de messages difficiles et compliqués, même parfois, enfin, tellement de choses qui veulent détruire ce que c'est le vrai amour, que je vous invite à plonger dans la Bible qui peut, pour définir un petit peu le sens de ce mot. Donc, on va afficher 1 Jean 4, 8, et ça va déjà nous aider. Aujourd'hui, on va rester beaucoup autour de ce que Jean nous fait connaître de l'amour de Dieu. C'est le disciple qui était très jeune quand Jésus l'a appelé et qui avait eu ce privilège de poser sa tête sur son cœur. Donc, Jean connaît très bien ce que c'est que l'amour de Dieu à travers Jésus et à travers tout ce qu'il a pu après vivre une fois que Jésus était retourné auprès de son Père. Donc 1 Jean 4, 8 nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc si on prend le début du verset, la première partie, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu », ça veut tout simplement dire que pour aimer vraiment et correctement, il faut connaître Dieu. Donc il y a déjà, ça remet les choses en place et c'est seulement dans la connaissance de Dieu, quand on avance, qu'on peut se rendre compte de ce que c'est vraiment que l'amour. Et Jean nous dit là, et c'est le message essentiel de la Bible, Dieu est amour. Donc Dieu lui-même se définit comme l'amour. Si vous cherchez l'amour, cherchez Dieu. Et si vous êtes dans l'amour, vous êtes en Dieu. Et donc, il est la source, la provision et l'accomplissement de l'amour. Et tout en lui est amour. Ça fait du bien de l'entendre. Hein. Je sais que je vais rester dans les banalités, mais on va aller plus loin. Je vous propose 5 marches aujourd'hui. Et ces 5 marches, elles sont elles-mêmes des marches qui peuvent nous ouvrir sur des grands escaliers. Et je vous invite à la méditation. Quand on dit tout en lui est amour, c'est que Dieu ne fait rien d'autre que d'aimer. Il aime totalement, pleinement et véritablement. Et tout ce qu'il fait, c'est à cause de son amour. Déjà, il est venu nous chercher. Et donc ça, c'est une grande marque d'amour. Souvent, quand on pense aux bénédictions de Dieu, quand on pense... Tout à l'heure, Thérèse nous demandait de dire merci pour ce qu'il a fait. Moi, je pensais aux bénédictions financières, aux bénédictions... Même mes enfants, c'est aussi un cadeau de Dieu. Et nos petits-enfants, maintenant. Mais le plus grand cadeau qu'il m'a fait, c'est de venir à moi, de venir me chercher là où j'étais et de m'emmener auprès du Père, de me révéler son amour, tout simplement. Et donc, l'amour, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est quelque chose qu'on a tous... chevillé au corps, au cœur plutôt, pardon. Pascal disait, le philosophe, hein, qu'il y a dans notre cœur un manque qui est en forme de Dieu. Et ce manque, c'est vraiment l'amour. Dieu a mis en nous cette notion de l'amour. Tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on désire concernant l'amour, on ne peut le trouver qu'en Dieu, parce qu'il est l'amour parfait. On se fait tous une idée de l'amour idéal, on a tous des aspirations, et il n'y a que Dieu qui peut le réaliser. Donc, c'est merveilleux, parce que non seulement il le réalise, mais il nous donne tout ce qu'il faut pour que ça puisse se mettre en place. Même nos aspirations les plus fortes peuvent être satisfaites en lui. Et il veut l'accomplir. C'est pas seulement qu'il est l'amour, mais qu'il nous le donne et qu'on peut le recevoir. Je vais vous parler de moi, parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais je pense qu'on a plus ou moins tous un itinéraire un petit peu, enfin au moins, qui peut s'en rapprocher. Moi, j'ai eu un père aimant, je pense, enfin, il est toujours vivant, hein, donc je parle au passé parce que c'était dans mon enfance, je vous raconte ce que j'ai vécu. Mais il était absent. Je suis persuadée de son amour pour moi, et il me l'a encore montré, on peut encore en parler, mais il a été fort pris par son travail, il avait, et lui-même n'ayant pas eu un père communicant, et surtout communicant par rapport à l'amour, il n'a pas pu me donner ce à quoi j'espérais, ce à quoi j'aspirais. Et ce n'est pas toujours évident, après, de se construire quand il y a eu ce manque de père. Mais donc c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de ce qui nous, ce à quoi on aspire. Et c'est vrai que Dieu a pu pourvoir à tout ce qui m'a manqué quand j'étais plus jeune et quand j'aspirais à cet amour de père, cet amour paternel. Parce que Dieu est le Père parfait. On a tous une image du Père déformée par notre Père terrestre, mais il faut imaginer que Dieu est beaucoup plus grand que ce que notre Père a pu nous donner. Et ça, c'est merveilleux. D'ailleurs, l'évangile de Jean, je vous parlais de Jean, on va vraiment l'écouter aujourd'hui. Son évangile est centré sur Dieu est Père. Et Jésus, et Jean en particulier, à travers cet évangile, nous montre la paternité de Dieu. Mais la Bible est pleine aussi de cet amour de Dieu qui nous montre Dieu à la fois père et mère. On peut dire Dieu est un père maternel ou un père avec un cœur de mère. Et en fait, il cumule à lui tout seul, et c'est merveilleux parce qu'il est Dieu, tous les attributs masculins et féminins. Tout ce qui est caractéristique de l'homme ou de la femme sont en Dieu. C'est pour ça qu'on dit il les a fait à son image, homme et femme, il les créa. C'est-à-dire que l'homme tout seul ne peut pas être la représentation de Dieu, c'est vraiment l'homme et la femme. Et les deux ensemble montrent toute la majesté, la grandeur et la beauté de l'amour de Dieu. Donc j'ai pris trois caractéristiques principales, mais ce n'est pas les seules, hein, il y en a énormément d'autres. Du côté masculin, la force, l'autorité et la sécurité. Et du côté féminin, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, hein, la tendresse, le secours, la consolation. Tout ça, vous le trouvez en Dieu. Et donc, pour revenir à notre première marche, essayer de définir l'amour, et donc l'amour de Dieu, le sens que la Bible nous donne, eh bien, on trouve ça dans 1 Corinthiens 13. Et donc, vous lirez à partir du verset 4, mais là, le verset 7 s'affiche. Là aussi, c'est tout un programme. Alors, elle, c'est parce qu'on parle de la charité, mais en fait, bon, ça veut dire l'amour. Donc, l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Ça, c'est l'amour de Dieu, et ça, c'est l'amour auquel Dieu nous appelle. Mais quand vous voyez ce programme-là, on en est vraiment bien indigne. Tout pardonner. Et puis, il y a un tout. Le tout, ce n'est pas à moitié, ou trois quarts, ou deux, etc., 9 dixièmes. C'est tout. Tout, tout, tout. Alors, bien sûr, Dieu le fait pour nous, et heureusement. Et c'est pour ça que Paul l'a mis en premier. Ce que disait Thérèse, de toute façon, au début de la louange, souriez, vous êtes pardonné. C'est grâce au pardon qu'on peut sourire, et surtout qu'on peut aussi d'abord s'approcher de Dieu. Donc, le pardon nous permet d'entrer en relation. S'il n'y a pas le pardon au départ, on est coincé, et on ne peut pas avoir une relation de confiance et d'intimité. L'amour croit tout. Alors ça, c'est extraordinaire, de vous dire que toutes les promesses que vous avez faites à Dieu, ben lui, il les a crues. Moi, j'ai fait plein de promesses à Dieu que je n'ai jamais réalisées et que je n'ai pas encore réalisées, et d'autres que j'ai complètement été à l'opposé. Mais Dieu, il me croit, parce que je l'ai dit avec mon cœur, et il sait qu'un jour ou l'autre, je vais aller au bout de cette promesse. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Là aussi, ce qui est formidable en Dieu, c'est qu'il nous voit tel qu'il nous a créés et tel qu'on sera le jour où il viendra nous chercher. Donc, pas du tout comme je suis ou comme nous sommes aujourd'hui. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. Alors là aussi, toutes nos petites... Moi, je suis un grand râleur. Je crois que c'est typiquement français. Mais j'ai beaucoup de mal avec la reconnaissance. Dieu travaille mon cœur là-dessus. Mais je sais qu'il endure toutes mes râleries, toutes mes... À chaque fois que je dis c'est pas juste, eh ben Dieu il l'endure et il m'entend, mais en même temps il me dit sois reconnaissant pour tout ce que je t'ai déjà donné. Donc si on voulait résumer en quelques mots, ben, ils sont là, mais pour que ce soit plus pratique, enfin plus pratique, plus concret disons, c'est tellement un beau programme. L'amour c'est rechercher d'abord le plus grand intérêt de celui qui était aimé. Rechercher d'abord et toujours le plus grand intérêt de celui qui est aimé. Alors déjà, vous voyez, je vous dis, ça c'est la première marche. Il y a des portes incroyables qui sont déjà ouvertes. Jean nous donne une deuxième clé après ce premier verset. Enfin là, c'était Paul, mais le premier verset de 1 Jean 4, 8. C'est 1 Jean 4, 7, juste avant. Il apporte une deuxième clé très grande aussi. Non seulement Dieu est amour, mais l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc vous voyez, ça va plus loin. C'est encore une étape de plus. Là, Jean nous dit que quand on essaye d'aimer, quand on veut vivre de l'amour, on est né de Dieu. Et donc, on devient des enfants de Dieu. Si on veut connaître l'amour, il faut d'abord naître de lui. Je disais tout à l'heure, hein, le premier verset, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et là, vous voyez, Jean dit exactement le contraire. Celui qui aime connaît Dieu. Et Dieu va se révéler de plus en plus. Le verset suivant, c'est un petit peu avant dans l'épître, la première, c'est « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelé enfant de Dieu, et nous le sommes. » Le suite du verset, ça n'a pas d'intérêt pour le prêche aujourd'hui. Comme je vous disais, Dieu fait tout par amour. Et là, Jean s'émerveille devant ce que l'amour de Dieu a fait. On en a parlé dans la louange. Il a envoyé son fils unique, son fils chéri, celui qui était au très fond de son cœur. Il a envoyé mourir d'une mort abjecte, crucifié pour nos péchés, afin que sa justice puisse être accomplie, que nos péchés puissent être pardonnés par ce sacrifice de Jésus. Et il est mort à la croix pour nous. Et donc c'est ce grand amour que le Père nous a témoigné. C'est lui qui a fait le premier pas, c'est lui qui nous a aimés le premier. Il nous aime d'abord. Et la Bible nous dira même dès avant la fondation du monde, et il nous appelle à la vie. C'est ça la naissance, c'est de devenir vivant, d'entrer dans le monde. Mais en fait, c'est son amour qui décide. Jean 1,12 nous dit, « À ceux qui l'ont reçu, la lumière de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et ça, c'est aussi un point important, de savoir qu'on est né de Dieu. Ce n'est pas nos parents, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la volonté de l'homme, c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a choisi le jour de notre naissance, c'est Dieu qui nous a appelés à la vie, c'est Dieu qui nous a lancés dans cette entreprise merveilleuse qu'est la vie. Donc ça, c'est aussi une assurance qui est fondamentale dans notre cœur, de savoir qu'on est appelé à la vie par Dieu. Et c'est un choix, un choix merveilleux, extraordinaire et fondamental de la part de Dieu, mais qui du coup a des conséquences aussi incroyables. Parce que du coup, l'amour de Dieu ne dépend absolument pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, c'est-à-dire des bonnes choses ou des mauvaises choses qu'on aurait pu faire ou qu'on fait encore. Dieu nous aime, un point, c'est tout. Il a choisi de nous aimer, il nous a appelés à vivre, il nous a fait naître de lui et il nous aime, quoi qu'on fasse. En le disant d'une autre façon, on ne peut rien faire de plus ou de moins pour faire varier l'amour de Dieu pour nous. Son amour est toujours au taquet. Ce n'est pas nos bonnes œuvres ou les mauvaises œuvres qu'on fait de temps en temps qui font changer l'amour de Dieu pour nous. Ça, c'est une assurance aussi tout risque. C'est bien mieux que toutes les assurances qu'on peut souscrire. Savoir que cet amour, il est là, plein, complet et éternel, infini pour nous. Rien de ce qu'on peut faire, rien de ce qu'on peut dire. Alors, donc, ça ne se mérite pas, mais en même temps, s'il nous arrive de tomber, il est toujours la main tendue, prêt à nous relever. Et son amour est infini. C'est lui qui l'a voulu ainsi. On est ses enfants. Et on peut le prendre avec la liaison. On est ou on est, N-E, ses enfants. Et c'est la fin de ce que je vous avais dit, la première partie. Et nous le sommes. Ça, c'est très important. Qu'on le ressente ou que le ressente pas, on est né de Dieu. C'est incroyable, mais vrai. Et en plus, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est définitif. Romains 8, 35 nous dit « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» Et là, s'ensuit toute une longue liste. C'est Dieu nous a dans sa main. On est caché avec Christ en Dieu, dira Paul aux Colossiens. Et même quand Jésus, en Jean 10, encore une fois Jean, nous parle du bon berger, il dit « Nul ne pourra les arracher de ma main. Je connais mes brebis, nul ne pourra les arracher de la main. » Ça, c'est la deuxième étape, deuxième marche. Né de Dieu. La troisième, elle est encore plus extraordinaire. On progresse, mais à chaque fois, c'est... L'infini, ce qui est extraordinaire, c'est que l'infini se finit jamais. C'est par définition. Et plus on entre dans l'infini, plus on se rend compte qu'il est infini. Romains 8, 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Et je vais vous lire 16, parce que là, j'ai oublié de le mettre. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, ce que je voulais pointer du doigt là, maintenant dans cette troisième marche, c'est un esprit d'adoption. On est non seulement des enfants, mais on est des enfants adoptés. Et dans l'Antiquité, l'adoption est toujours plénière. Aujourd'hui, en France, on peut faire des adoptions. Je ne sais plus, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Il y a différents types d'adoptions. Et quand on prononce l'adoption plénière, c'est-à-dire qu'on a les mêmes droits et les mêmes privilèges que le fils du sang. Même César, c'est connu, c'est juste pour vous situer, à l'époque où l'écriture a été mise sur pierre, c'était vraiment donc César lui-même, quand il a été assassiné par Brutus, qui était un enfant adopté, il lui a dit tu quoque mi fili, ce qui veut dire toi aussi mon enfant, parce que Brutus était son fils, il n'avait pas eu d'enfant naturellement, mais il l'avait vraiment pris en charge avec tout ce que cela impliquait. Et c'est ce qu'aujourd'hui on peut faire avec les tribunaux quand on adopte un enfant, c'est de lui donner exactement les mêmes droits à l'héritage, à la filiation complète de devenir fils de la maison. Et là, dans le cœur de Dieu, Dieu donc nous partage son intimité et sa plénitude. C'est ce que le Père dira dans la parabole du fils prodigue au fils aîné, en Luc 15, 31. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Jésus nous a donné cette parabole pour nous montrer que le Père était comme le Père de cet enfant. Et aujourd'hui encore, entendons le Père nous dire Tu es toujours avec moi, toujours, toujours, toujours. Et tout ce que j'ai est à toi. On est co-héritier avec Christ, hein, et ça va même très très loin, enfin, cet héritage, parce que dans la prière de Jésus en Jean 17, toujours Jean, juste ce qu'on appelle la prière sacerdotale, juste avant que Jésus soit arrêté, au verset 22, il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Donc Jésus partage son héritage, jusque même sa gloire, et sa communion avec le Père. Et en fait, l'adoption, c'est le message principal de la Bible. Parce qu'à travers cette adoption plénière, on n'est plus seulement des enfants, mais des fils, avec tous les privilèges du fils unique qui était Jésus. Éphésiens 1:5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Là, on retrouve encore la grâce de Dieu. Des enfants d'adoption, selon le bon plaisir de sa volonté. Et c'est pour ça donc que Jésus parle beaucoup du Père dans Jean. L'objectif principal de Dieu, le Père, est de rétablir cette relation qui a été brisée au Jardin d'Éden. À cause du péché originel, on a été séparés de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions nous rapprocher de lui et vivre cette relation d'intimité avec lui. C'est pour ça que Jésus s'est incarné, qu'il est devenu homme, pour nous rendre Dieu encore plus proche. Même Jésus lui-même, quand ses disciples lui demandent d'apprendre à prier, donc cette belle prière qu'il nous laisse, il commence par « Notre Père ». Et en fait, en grec, c'est pas tout à fait la même chose, et je trouve que c'est plus beau, parce que le premier mot, c'est « Père ». « Père de nous ». Et donc, d'abord, on s'adresse au Père. Et au Père de nous, c'est-à-dire qu'on est tous une grande famille. Jésus est notre frère, et on a un seul Père. C'est tout ça, l'adoption. Appartenir à la famille de Dieu. Luc 3, 22. Le Saint-Esprit descendit sur lui, c'est le baptême de Jésus, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, non, fit entendre du ciel ses paroles, c'est le même. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Moi j'ai eu du mal pendant longtemps avec cette parole. Et pendant longtemps parce que je me trouvais indigne, je me disais mais Seigneur, tu as dit ça à Jésus. Tu as dit ça quand ton fils est sorti de l'eau. Moi, je sais bien que je suis ton fils. Mais est-ce que cette parole s'adresse vraiment à moi? Et Dieu m'a montré que oui, c'était la vérité. D'ailleurs, il l'a répété à la transfiguration. Si vous prenez l'évangile de Matthieu, c'est exactement la même parole au baptême et à la transfiguration. Et Dieu m'a montré à travers ça que il nous le dit à nous aussi, qui veut nous le répéter, comme il l'a répété à Jésus en tant qu'homme, en tant que Dieu venu comme homme sur terre, il veut nous le répéter à nous aussi. Donc, laissons Dieu, notre Père du ciel, nous redire régulièrement, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Toute l'affection du Père, ça veut dire que vraiment, il nous aime d'un amour incroyable. Toute son affection, tout son amour, tout ce que ses entrailles, c'est Dieu est tout autre, mais il est aussi, il se révèle présent à travers parfois des images qui viennent de nous. Toutes ses entrailles frémissent pour moi. Pour chacun d'entre nous. Et dans la vie naturelle, pour que l'adoption fonctionne, il faut un mouvement réciproque. Les parents choisissent l'enfant, mais l'enfant lui-même doit accepter ses parents. Sinon, l'adoption ne marche pas. Sinon, il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas bon. Donc l'enfant doit choisir de devenir l'enfant de ses parents. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu nous aime le premier, c'est lui qui fait tous les premiers pas, c'est lui qui a envoyé son fils, c'est lui qui nous a sauvés, et c'est lui qui a tout accompli. Et moi, après, derrière, je choisis, j'accepte et je décide d'être son enfant. 1 Jean 4, 9, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » L'adoption prend tout son sens quand le choix est mutuel. Dieu nous a choisis, mais moi aussi, je choisis Dieu. Ça, c'est la troisième marche. Mais c'est déjà une marche qui nous dépasse. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, l'amour que Dieu nous donne et qu'il définit, il est au-delà de notre imagination, au-delà de nos désirs, au-delà de notre idéal. Là, on est adopté par le Père d'une adoption plénière. Et la dernière clé que Jean nous donne, c'est la quatrième parce que... la quatrième, c'est pas la dernière. Jean nous donne encore une clé concernant cet amour éternel, c'est Jean 17, 23. Alors, je vais vous lire une toute petite partie du verset 22, la fin, pour que ça s'éclaire mieux le verset 23. J'ai dû oublier de le mettre. Jean 17, 23. Oui. Alors, la fin du verset 22, c'est « Afin qu'ils soient un comme nous sommes un », et là, c'est le verset 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Et c'est juste la fin de ce verset. Moi, je suis tombé sur le derrière quand j'ai relu ça. « Que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Il faut s'imaginer la Trinité. Tout à l'heure, on disait « Dieu est amour ». Et il y a un tel échange d'amour, il y a une telle relation d'intimité entre le Père et le Fils que ça dépasse notre entendement. Ça dépasse... On ne peut que contempler. Il n'y a plus de mots. Ça devient, comme je disais tout à l'heure, Dieu est tout autre. Il est au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà de ce qu'on peut même comprendre. Et il n'y a que la révélation qui peut nous montrer. Et cet amour si extraordinaire, si puissant, si intense qu'il y a entre le Père et le Fils, rien n'est plus intense. Et bien cet amour-là, il est entre le Père et nous. Dieu nous aime comme il a aimé Jésus. Je suis aimé, mais chacun peut le dire, comme le Père aime son Fils, son unique, celui qu'il a chéri par-dessus tout. J'aime à dire que Dieu n'a pas de préféré, parce qu'on est tous égaux devant lui. Ce que moi je vis, vous pouvez le vivre aussi. Et donc, c'est valable aussi pour Jésus. En fait, moi j'ai toujours cru que dans le cœur de Dieu, Jésus était préféré. Et c'est vrai. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est ça l'infinité de Dieu. Quand c'est infini, vous prenez l'infini, vous mettez tout sur Jésus, et Jésus, il a un amour infini du Père. Mais vous n'enlevez rien à l'infini si vous prenez cet infini, une autre partie de l'infini, et que vous le mettez sur moi. Il y a tout l'amour infini de Dieu pour Jésus, et tout l'amour infini de Dieu pour moi, et c'est le même. La même relation, la même intimité, la même proximité, la même bénédiction, tout ce que l'amour comporte. Dieu n'a pas de préféré. Même Jésus n'est pas son préféré. Et ça ouvre, comme je vous disais tout à l'heure, des portes extraordinaires parce que Jésus s'est incarné, il est devenu homme et il était pourtant dans le cœur de Dieu. Il était pourtant constamment avec Dieu. Il était pourtant toujours en relation avec Dieu. Et cette relation que Dieu le Père a eue avec le Fils en tant qu'homme, elle est la nôtre. Dieu nous appelle à vivre la même chose. C'est ça que ça veut dire, aimer du même amour que le Père a aimé le Fils. Tout ce que Jésus a vécu en tant qu'homme, on peut nous aussi le vivre dans notre relation à Dieu. Quand je vous dis que ça ouvre des portes et que c'est des marches qui... C'est vrai, on progresse, mais je vous dis, on arrive dans l'indicible. Indicible, c'est qui ne peut pas se dire. Je prêche, mais je me prêche à moi-même. Et je sais que j'ai abordé un tout petit bout de tout ce que Dieu peut me révéler. Mais je voulais vous le partager parce que ce petit bout, pour moi, c'est tellement merveilleux que j'aimerais bien que vous puissiez aussi vous-même l'approcher et après l'élargir. Le rôle du Père, moi je dis souvent à mes enfants, moi j'aimerais que là où je suis arrivé, mon plafond, ce soit votre plancher. Et j'aimerais, dans la prédication, que ce soit la même chose, que vous puissiez démarrer là où moi je suis arrivé. Ça dépasse tellement tout. Et je vous disais, il y a 2 minutes, Dieu n'a pas de préféré. Mais si Dieu a un préféré, c'est moi. Et Daniel, et Jean-Luc, et n'importe qui. On est tous ses préférés. Chacun peut le prendre pour son compte. C'est extraordinaire, hein. Encore, bah, je ne l'ai pas... Jean 17, 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître... Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, Dieu nous ouvre des portes et vraiment prier pour cette révélation de l'amour. Je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi-même je sois en eux. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en nous. Vous vous rendez compte, Dieu nous estime suffisamment bien, ou, mais capable même plutôt, qu'il est prêt à ce qu'on devienne des réceptacles de son amour. L'amour dont tu m'as aimé soit en nous. Je peux, moi, recevoir tout cet amour. J'ai la capacité. Mon cœur n'est pas trop petit. C'est Dieu qui le dit. Hein, moi je... Mais, comme je disais au début, il croit tout. Et donc, Dieu il me donne cette capacité de recevoir toute la grandeur, toute la magnificence et toute l'infinité de l'amour de Dieu. Cette quatrième marche, du même amour que le Père a aimé Jésus. Et la cinquième, je l'ai appelée demeurer. 1 Jean 4, 16. C'est encore une porte de plus qui s'ouvre. Et je pense qu'effectivement, enfin, c'est une marche de plus. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, nous y avons cru. Donc là, on a avancé dans la connaissance de Dieu. Dieu est amour, donc encore une fois, j'en repose la définition. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Waouh ! J'ai été chercher dans une Bible online pour aider aussi à la méditation, la contemplation de ce que Dieu fait. Le verbe « demeurer », il fait référence à 3 choses. Et là encore, ça enrichit notre adoration, parce que là, on n'est plus dans la contemplation simplement. On ne peut que dire merci, on ne peut que dire « mais Seigneur, t'es bien plus grand que ce qu'on peut imaginer ». Donc, « demeurer » peut faire référence premièrement au lieu, c'est-à-dire habiter. j'habite, je demeure à Hénin, ben, c'est parce que j'habite à Hénin. Mais donc c'est un endroit. Et donc on voit déjà ce que ça veut dire pour nous. Dieu demeure en nous, et il est dans mon cœur, il est dans ce que je suis, dans toute ma pensée. On revient au premier commandement, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ce lieu d'habitation de Dieu dans mon cœur. Et le deuxième référence à la demeure, par rapport à ce verbe, c'est le temps. C'est-à-dire, demeurer, ça peut vouloir dire aussi parfois continuer. Et donc, ça, c'est un appel à cette demeure constante, instant après instant. Laissez Jésus et pensez, parce que souvent nos pensées vagabondes, que Jésus demeure en nous. Et surtout, le troisième point, c'est aussi, ça fait référence à un état. Demeurer, ça peut être demeurer pareil, rester tel qu'on est. Et là, si Jésus demeure en nous, c'est demeurer tel que Jésus veut que nous soyons, c'est-à-dire le laisser demeurer pour nous transformer. Qu'il soit vraiment en nous. Jean 14, 20, c'est Jésus promet le Saint-Esprit, pour vous donner le contexte, et il dit que le Saint-Esprit va venir habiter en nous. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et là, on arrive dans un cercle qui tourne, qui tourne, qui tourne. Enfin, vous l'imaginez comme vous voulez. On revient sur ce que je disais tout à l'heure, la Trinité, cet échange d'amour. Moi, j'ai souligné sur mon texte que vous êtes en moi, mais la première partie, elle est importante. Jésus est dans son Père, constamment. L'Esprit nous montre que nous sommes en Jésus. Et donc, si Jésus est dans le Père et que je suis en Jésus, je suis moi-même dans le Père. Et la fin, c'est que je suis en vous. Je suis en Jésus, mais Jésus est aussi lui-même en moi. Donc, là encore, ça nous ouvre des horizons incroyables. Et en priant, en préparant, m'est revenu le verset de Jean 14, 3. Je vais vous le lire. On ne voit pas forcément le rapport, mais moi, ça m'a tilté. Lorsque je serai parti et lorsque je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ouh là, c'est dur. Donc en fait, Jésus dit qu'il nous prépare une place pour qu'on puisse être avec lui. Mais moi, j'ai toujours cru, enfin, dans ma bêtise, que ce verset parlait de la vie après la mort, que Jésus nous préparait une place dans la maison de Dieu. Mais en travaillant sur demeurer, je me suis rendu compte que Jésus nous disait ça pour au jour d'aujourd'hui, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Jésus est dans le cœur de Dieu. Lui-même a sa tête contre le cœur du Père et il veut que nous-mêmes, on soit avec lui. Jean 17, 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Ce n'est pas du futur. Afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Et je vous laisse un dernier verset qui sera ma conclusion. Jean 15, 9. La boucle est bouclée. On retrouve de nouveau tout cet amour qui se communique de l'un à l'autre. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Donc Jésus nous demande simplement d'habiter, de continuer constamment et de rester dans son amour. Amen. Alors, les cinq marches, la première, c'est la définition. Hein, donc, rechercher d'abord et toujours le plus grand intérêt de celui qui est aimé. Définition de l'amour selon la Bible. La deuxième marche, c'est naître de Dieu. C'est sa volonté. C'est lui qui nous choisit. La troisième, c'est être adopté avec une adoption plénière. La quatrième, c'est d'être aimé du même amour que le Père aime le Fils. Et la cinquième, demeurer dans son amour. Thérèse, deux minutes. Tu peux reprendre le chant, je ne sais plus lequel. Voilà, Père, je me... Elle a préparé...